Gloire à Dieu et bonjour à tous. C'est une joie de revoir mon frère après plusieurs années et c'est une joie de partager avec vous la parole de Dieu ce matin. C'est un privilège parce que cette parole qui est esprit et vie, c'est notre nourriture à nous tous. Et il faut que celui qui l'apporte apporte une bonne nourriture. Il ne faut pas qu'il apporte une parole qui ne corresponde pas à la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu a mis sa crainte dans mon cœur, parce que je sais que je serai jugé plus sévèrement en fonction de ce que j'ai enseigné. Et le désir de mon cœur, c'est d'enseigner la pure vérité. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu qui est la vérité. On est des enfants de la vérité. Nous avons reçu un esprit qui est l'esprit de vérité. Et cet esprit-là doit nous conduire dans toute la vérité. Non pas pour meubler nos cases intellectuelles, mais pour nous donner une révélation qui va éclairer nos vies, pour qu'on la mette en pratique. Amen. J'ai déjà eu le chapitre d'Ésaïe 53. Mais souvent, quand je commence un message, quel qu'il soit, j'aime bien, parce que je sais qu'il y a peut-être là une personne qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, et une âme, c'est précieux pour Dieu. Je suis sûr que s'il n'y avait eu qu'une seule âme à sauver, Jésus serait quand même descendu sur la terre pour cette âme-là. Donc l'Évangile est tout simple, l'Évangile nous dit que tous les hommes sont pécheurs de naissance. Pour être pécheur, il suffit d'être né humain. C'est Dieu qui crée en nous l'esprit quand on est conçu dans le sein de notre mère. Mais nous héritons d'un corps dans lequel se trouve le péché depuis Adam et Ève. Adam et Ève, nos premiers parents, ont péché. Ils sont tombés dans la mort spirituelle et ils ont transmis cette mort à tous leurs descendants sans une seule exception, sauf Jésus. Et ce péché qui était dans notre corps, en grandissant, nous a tous poussés à pécher, à tomber dans la mort spirituelle. Et donc, nous avons tous besoin d'être sauvés. Et nous ne pouvons pas être sauvés par nos bonnes œuvres, on ne peut pas être sauvés par la religion, on ne peut pas être sauvés en mettant du bon côté de la balance nos bonnes actions et en espérant qu'elles seront plus nombreuses que les mauvaises. Ça, c'est l'enseignement des religions. Nous ne pouvons être sauvés qu'en croyant en celui qui est mort et ressuscité pour nous. Pourquoi ? Parce que sur la croix, il a pris dans son corps tous nos péchés, toutes nos iniquités. Imaginez un peu la souffrance de Jésus, le Fils de Dieu, né sans péché, ayant vécu sans péché, étant Dieu le Fils incarné dans une chair semblable à la nôtre, mais sans péché. Sur la croix, il a accepté de prendre dans son corps, c'est Pierre qui le dit dans sa première épître, 1 Pierre 2, 24, dit « Lui qui a porté dans son corps nos péchés, les péchés du premier homme au dernier qui va venir sur cette terre, d'avance il les connaissait et il a tout pris dans son corps pour expier à notre place nos péchés. » Ésaïe 53 dit « que le jugement qui doit nous donner la paix est tombé sur lui. Le jugement qui aurait dû tomber sur nous, parce que Dieu est juste et il jugera toujours le péché. Et ce jugement, c'est la condamnation à mort. Il veut nous en délivrer parce que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu juste, mais un Dieu d'amour. Donc, par amour pour nous, il a demandé à son Fils, qui était d'accord, bien sûr, de toute éternité, de se dépouiller lui-même, de quitter son ciel de gloire et de venir s'incarner dans le corps d'un simple homme. Et là, sur la croix, il a porté nos péchés, il a porté le jugement qui devait tomber sur nous et il est mort à notre place. J'ai un appareil qui... Bon. Donc s'il y a ici quelqu'un qui a compris ce message, la première fois que je l'ai entendu, J'ai écouté et il m'a semblé parfaitement logique d'entendre que nous sommes tous pécheurs et qu'il y a un jugement sur le péché, que Dieu ne laissera rien passer, mais que par amour pour nous, il a envoyé son Fils pour prendre à notre place notre péché et subir la condamnation qu'on aurait dû subir. J'écoutais ça, ça m'a semblé parfaitement cohérent, parfaitement logique. Ensuite, le prédicateur, qui est devenu mon ami par la suite, c'était la première fois que j'entendais ce message comme cela, c'était un homme qui était mort à la suite d'une gangrène généralisée de ses jambes. Il était mort pendant 3 heures, il était monté au ciel, il nous avait raconté son témoignage. Il avait vu la place, il avait vu Jésus face à face. Il avait vu la place que Dieu avait réservée pour lui dans le ciel. Et ensuite, Dieu lui avait demandé de redescendre pour raconter son témoignage. Et il n'avait pas voulu redescendre. Et Jésus ne l'a pas obligé, mais il l'a conduit devant la porte de l'enfer. Et il lui a dit, regarde, il a regardé, il n'a rien vu. Il voyait des ténèbres. Mais il m'a dit, j'ai entendu des hurlements et des cris. Pas des cris d'enfants, des cris d'hommes et de femmes qui me voyaient dans la lumière. Et qui criait, qui disait, si tu peux, reviens sur la terre, dire qu'il y a un jugement après la mort, et que nous, maintenant, nous sommes du mauvais côté. Donc, si tu peux, reviens prévenir mon père, ma mère, qu'il y a un jugement après la mort, et qu'ils peuvent éviter d'être jugés, d'être condamnés comme nous. Et du coup, il a accepté de revenir sur la terre, et quand il est revenu, on avait appelé le médecin qui avait constaté sa mort depuis 3 heures. Et le médecin a eu la surprise de sa vie en voyant le mort ressuscité. Il avait la gangrène généralisée de ses 2 jambes, il ne pouvait pas vivre. Le médecin l'a amené de force à l'hôpital pour y mourir. Et 3 jours après, Dieu, par sa puissance, a reconstitué les chairs pourries, a remis la peau, les nerfs, et cet homme-là a retrouvé une parfaite santé. Ça a été constaté médicalement, ils n'ont pas eu d'explication, mais j'avais devant moi le mort vivant qui avait des jambes en parfaite santé et je n'ai pas été convaincu par son témoignage. Moi qui étais bon catholique, né à Lourdes, élevé chez les jésuites, je savais que nous aussi à Lourdes, on avait des miracles. Donc je me disais, les protestants aussi, ils en ont, bon. Mais je suis allé dans cette église dont Pierre Truchel était devenu le pasteur par la suite à Grenoble. Je suis allé écouter le message que cet homme avait à annoncer. Et quand il a annoncé ce que je viens de vous annoncer, mon cœur a été touché. Pour la première fois de ma vie, j'ai su que moi aussi j'étais pécheur. Jusque-là, je pensais que Jésus était venu pour les gros criminels, les violeurs, les meurtriers. Mais moi qui étais un homme de bien, un homme bon, ce n'était pas pour moi. Et là, pour la première fois, le Saint-Esprit, dans mon cœur, m'a convaincu que j'étais pécheur comme tous les autres. C'est une grâce d'être convaincu qu'on est pécheur. Une grande grâce. Jusque-là, je ne me sentais pas pécheur du tout, du tout. Mais là, le Saint-Esprit m'a convaincu. Il m'a même dit, tu es le pire de tous parce que tu es un pécheur qui se croit bon. Et là, la lumière a été faite et j'ai accepté. Et quand il a dit à la fin, je vais prier pour vous, levez la main, ceux qui ont été touchés, je n'ai pas osé lever la main par orgueil. J'étais professeur à l'université et je me disais, si dans cette salle, il y a un de mes élèves, ma réputation est fichue. Mais j'ai écouté la prière et dans mon cœur, j'ai accepté. La prière était simple. Toi qui as écouté le message et dont le cœur a été touché, tourne ton cœur vers Jésus maintenant. Demande-lui pardon pour tes péchés. Et Jésus qui a payé d'avance pour tes péchés, il te pardonnera immédiatement et tous tes péchés seront effacés. Et je l'ai faite, cette prière. Et j'ai su que mes péchés étaient effacés. Pourquoi je l'ai su? C'est la révélation du Saint-Esprit. Il venait de le dire dans la parole de Dieu. J'ai accepté le message. Et à ce moment-là, Dieu a fait passer mon esprit par une nouvelle naissance. Je ne savais pas que j'étais né de nouveau, je savais que j'étais pardonné, c'est tout. Je vais vous lire dans le livre des Actes un passage dans Actes 10. Mais avant de lire ce passage, je voudrais moi aussi faire une prière pour quelqu'un ici. Quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, qui est peut-être sur le point de le faire. Vous avez écouté ce qui a été dit par Robert, le pasteur, parce que je viens de rappeler, c'est que tu es pécheur, toi aussi, comme tout le monde, et que tu sais maintenant que Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur la croix, pas seulement pour le monde entier, mais pour toi personnellement. Donc c'est le jour aujourd'hui de te décider, une fois pour toutes, de donner ton cœur, ta vie au Seigneur, de reconnaître ton péché et d'accepter comme sauveur personnel Jésus de Nazareth. Donc je vais prier pour toi. Et nous allons tous prier ensemble pour une ou deux ou trois personnes ici qui n'ont pas encore fait ce pas et qui sont ici parce que c'est leur journée aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour ceux qui, au milieu de nous, n'ont pas donné leur cœur au Seigneur. Ils viennent d'entendre ton évangile. Et Seigneur, je te remercie parce que, par ton esprit, tu leur montres dans leur cœur que, comme tous, ils sont aussi pécheurs, mais que tu ne veux pas condamner le pécheur parce que tu as condamné Jésus à notre place. Donc, Seigneur, je te prie pour que les cœurs de ces personnes-là soient touchés et qu'en ce moment même, ils te demandent pardon pour leurs péchés. Et ils acceptent de tourner leur regard et leur cœur vers Jésus pour l'accepter comme sauveur personnel. Accepte maintenant Jésus comme celui qui est mort pour toi. Accepte de reconnaître que son sang qu'il a versé sur la croix est seul capable d'effacer tes péchés si tu les lui confesses maintenant, en disant simplement « Oui, je reconnais que je suis pécheur, j'ai péché contre toi ». Je te demande pardon et je crois que tu me pardonnes maintenant. Non pas parce que je suis un homme bon, mais parce que Jésus a payé mon péché à ma place. Et je sais que tu l'acceptes maintenant et je bénis Dieu pour cela. Et nous remercions tous le Seigneur de ce qu'une âme ou deux âmes ont été sauvées ce matin. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Amen. Dans Actes 10... il est question d'un homme à Césarée, nommé Corneille, c'était même pas un juif, c'était un romain, centenier dans la cohorte, un capitaine. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes, il faisait beaucoup de bonnes œuvres et de bonnes actions. Et il voit arriver, dans une vision, un ange qui se révèle à lui et qui lui dit « Il faut que tu amènes dans ta maison quelqu'un qui va te dire ce qu'il faut que tu fasses. » L'ange ne lui a pas annoncé l'évangile, parce que ce n'est pas aux anges de le faire, c'est aux hommes. Et d'ailleurs, au chapitre 11, juste à côté, quand Pierre raconte son expérience aux anciens de Jérusalem, il leur dit ceci, au verset 13 du chapitre 11, « Cet homme nous raconta, donc ce Corneille, comment il avait vu dans sa maison, l'ange se présentait à lui en disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Vous voyez que cet homme était juste, il était pieux, il faisait des aumônes, mais il n'était pas sauvé. Il a fallu qu'il fasse venir Pierre, qui est venu avec quelques témoins. Et qu'est-ce que Pierre lui a dit ? Pierre a annoncé simplement l'évangile. Pierre avait assisté à la crucifixion de Jésus. Et au chapitre 10, au verset 37, voilà ce que Pierre leur raconte à Corneille et à sa famille. « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, de puissance, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. » Qu'est-ce qu'il faisait comme bien ? Il pardonnait les péchés, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il délivrait les captifs, il chassait les démons, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus-Christ a pleinement manifesté la vraie nature de Dieu son Père. Jusque-là, Dieu n'avait jamais pu se révéler pleinement tel qu'il était. Mais en la personne de Jésus, Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc toutes les œuvres que Jésus a accomplies, les guérisons des malades, les résurrections de morts, c'était le Père en lui qui les accomplissait, et notamment la guérison de tous les malades qui se présentaient à lui, pour une raison bien simple, que sur la croix, Jésus ne s'est pas contenté de prendre nos péchés sur lui, mais il a pris aussi les conséquences de nos péchés, c'est-à-dire la malédiction qui accompagne le péché. Paul, dans Galates, au chapitre 3, au verset 14 et 15, il dit qu'il est devenu malédiction pour nous sur la croix, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour vous païens, pour nous païens, et pour les juifs aussi, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions l'Esprit qui avait été promis. Avant de nous quitter à la fin de la réunion, je vais prier collectivement pour les malades, parce que je sais que Dieu fait des miracles quand on prie avec foi, et que Dieu va en faire ce matin au milieu de nous. Il n'en fait pas seulement en Afrique ou en Amérique du Sud, il veut en faire au milieu de nous. Parce que si nous avons la foi, il répond à la foi. Amen. Amen. Alors préparez-vous, parce que vous allez voir agir Dieu au milieu de nous ce matin. Amen. Et alors un peu plus loin, il leur dit, au verset 42, « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, donc par la foi en lui et en son nom, le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » C'est ce qui s'est passé ce matin quand tu as ouvert ton cœur pour recevoir par la foi en lui le pardon de tes péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, donc ceux qui l'écoutaient ont reçu le message dans leur cœur, ils l'ont accepté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole et tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les Juifs convertis à Jésus, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés, parce que des Juifs ne pouvaient pas penser que le Saint-Esprit pouvait être donné à des païens. Réalisez-vous que Acte 10, c'est 10 ans après la Pentecôte. Et Jésus leur avait dit, allez dans la terre entière annoncer la bonne nouvelle. Mais jusque-là, ils ne l'avaient annoncé qu'à des Juifs. Parce qu'ils n'osaient pas imaginer que des païens puissent recevoir le salut comme le peuple de Dieu, les Juifs. Et du coup, Dieu a dû prendre l'initiative, envoyer un ange, envoyer Pierre. Et tous les fidèles circoncis furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Alors ça, et comment ils se sont rendus compte que le don du Saint-Esprit était répandu sur eux? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu, exactement comme sur eux-mêmes le jour de la Pentecôte. Et ils ont dû se rappeler ce que Jésus leur avait dit dans Marc 16, « Voilà les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en moi. » Le premier miracle, c'est en mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que vous croyez que chaque chrétien, chaque chrétienne a l'autorité de chasser les démons, y compris Satan lui-même? Amen. Le deuxième miracle, c'est en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Je me rappelle être allé un jour dans une assemblée et je ne sais pas pourquoi, j'y pensais pas, mais le premier mot que j'ai dit, c'est « Dieu veut que tous ses enfants parlent en langue ». Et j'ai vu une dame, une sœur se lever d'un bond et dire d'une voix forte « C'est faux !» Bon, l'ambiance était là. « C'est faux !» J'ai dit « Ma sœur, calme-toi. Est-ce que tu as ta Bible avec toi ?»« Oui. » Elle n'était pas contente. Hein. Je lui ai dit, est-ce que tu veux bien prendre la Bible et lire Marc 16, versets 16 et 10 suivants? Alors elle lit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Elle lit, en mon nom et chassons les démons. Je l'arrête. Je lui dis, ma sœur, est-ce que c'est pour qui ce miracle? C'est pour qui cette autorité? Elle me dit, mais c'est pour tous ceux qui croient, puisque Jésus vient de le dire. Donc je lui dis, ma sœur, donc tu crois que toi aussi, tu as autorité au nom de Jésus de chasser tous les démons? Elle me dit, oui, bien sûr, c'est pour tous. J'ai dit, alors lis la suite maintenant. Elle lit, d'abord elle lit en silence. Elle relève la tête et puis elle me dit, tu avais raison. Le parler en langue, c'est pour tous ceux qui croient. Donc si tu ne parles pas en langue maintenant, c'est soit tu n'es pas encore né de nouveau, pas encore converti, soit tu ne crois pas que c'est pour toi. Donc ce que nous allons faire aussi, nous allons prier pour tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit au milieu de nous. Tous ceux qui ont fait un acte de repentance et de foi en Jésus reçoivent tous le Saint-Esprit dans leur esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait passer par une nouvelle naissance. Mais tous ne sont pas automatiquement remplis de l'Esprit. Parce que le baptême de l'Esprit, c'est le fait d'être rempli. Là, ils ont reçu à la fois le pardon de leurs péchés, la nouvelle naissance et le baptême de l'Esprit en même temps. Pourquoi ? Parce que jamais Pierre n'aurait pensé, ou les Juifs, n'auraient pensé que les Juifs puissent recevoir le baptême de l'Esprit. Et comme ils ont vu qu'ils ont parlé en langue devant eux, pour eux c'était le signe évident qu'ils avaient reçu l'Esprit comme eux au début à la Pentecôte. Donc, ils n'ont plus douté, ils ont compris que c'était pour tous. Et au verset 47, Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés d'eau au nom du Seigneur. Voyez la réaction immédiate de Pierre. Ils ont reçu l'Esprit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais ils ne sont pas baptisés d'eau. Donc Pierre s'est rappelé le commandement de Jésus à ses disciples. Dans Acte 1, ou à la fin de tous les évangiles, quand dans Matthieu 28, Jésus envoie ses disciples en leur disant « Allez dans la terre entière annoncer la bonne nouvelle ». Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les d'eau. Et on voit que dans le livre des Actes, tous ceux qui sont amenés au salut par les apôtres et les disciples, tous ceux qui se sont convertis, eh bien, ils recevaient immédiatement l'ordre qui leur était transmis par les apôtres et les disciples, l'ordre de passer par un baptême d'eau. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui l'avait ordonné. Et ils avaient tellement le souci d'obéir à l'ordre du Seigneur que dès que quelqu'un se convertissait, il lui disait « Maintenant, il faut que tu sois baptisé d'eau par immersion. » Pourquoi par immersion ? Parce que l'apôtre Paul explique que ça représente un enterrement, ça représente une mise au tombeau de celui qui est mort et ressuscité en Christ. Mise au tombeau, et quand on sort de l'eau, ça représente une résurrection. Alors ceux qui sont convertis à Jésus, qui ont vraiment sincèrement, du fond de leur cœur, demandé pardon pour leurs péchés, et qui ont reçu ce pardon, et qui ont reçu Christ comme leur Sauveur et Seigneur, eh bien l'ordre du Seigneur pour vous, c'est que sans tarder, vous passiez par un baptême d'eau, par immersion. Vous allez trouver le pasteur, vous lui dites, j'ai compris pasteur, baptise-moi d'eau par immersion à la première occasion. Je me rappelle, dans cette église de Grenoble, quand je me suis converti, je ne savais pas que j'étais né de nouveau, mais je savais que j'ai reçu un amour pour le Seigneur que je n'avais pas et un désir de connaître sa parole que je n'avais pas avant. J'avais chez moi une Bible catholique que je lisais de temps en temps, mais elle ne m'intéressait pas, honnêtement. J'y comprenais pas grand-chose. Mais quand je suis revenu chez moi ce jour-là, j'ai pris ma Bible, et j'ai dit, je veux savoir ce que mon Jésus a dit là-dedans. Parce que je ne le sais pas, en fait. Mon éducation catholique se résumait à écouter le prêtre les dimanches, quand j'y allais, c'est-à-dire pratiquement jamais, écouter ce qu'il disait, mais je ne connaissais pas la parole de Dieu. Et j'ai commencé à dévorer cette parole chez les jésuites, j'avais fait du grec. Je savais que baptizo, ça voulait dire plonger dans l'eau. Et la chose qui, pendant un an, j'ai lu la Bible tout seul chez moi. Et ce qui me travaillait le plus, c'était ce baptême d'eau. Parce que je voyais les disciples, je voyais Jésus baptisé, je voyais les apôtres baptisés, je voyais Paul baptisé, je voyais... Et je savais que baptiso, ça voulait dire plonger. Et peu à peu, ma conscience était reprise. Et au bout d'un an, le Seigneur m'a dit, mais toi, finalement, ton baptême catholique, il a été fait quand tu avais 8 jours, tu n'as rien demandé. En plus, on t'a mis 3 gouttes d'eau sur la tête, ce n'était pas être baptisé par immersion. Et donc, je me suis senti repris dans ma conscience, je suis retourné dans cette église de Grenoble. J'ai pris à part le pasteur Ancé, que certains ont connu, le beau-père de Pierre Truchet. Je l'ai pris à part, je l'ai presque saisi par le collet. Je lui ai dit, frère, je veux être baptisé aujourd'hui, vous m'entendez? Aujourd'hui. Il m'a regardé avec son regard plein d'amour. Il aurait pu me dire, frère, vous attendrez, dans 15 jours, il y avait un service de baptême, il aurait dit, vous attendrez 15 jours. Il m'a dit, bon, je prends 2 témoins, Pierre Truchel et un des anciens. On va chez vous, vous remplissez votre baignoire. J'avais une grande baignoire. J'étais encore plus maigre que maintenant. Je me suis plié en 3. Il m'a plongé. Il m'a plongé dans l'eau. C'était le jour de l'élection de Giscard d'Estaing à la présidence. Jour mémorable pour moi. Et ensuite, ils m'ont dit, mais... maintenant que tu es baptisé d'eau, que tu as obéi, demande le baptême de l'Esprit. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ils m'ont lu acte 2, ils m'ont lu acte 1, acte 2. Il faut que tu demandes à Jésus de te remplir de son Esprit, et il va le faire. Mais ils ne m'ont pas expliqué que je devais mettre ma foi en action. Ils m'ont dit, il faut que tu attendes que ça descende sur toi, et tu vas parler en langue. Alors j'étais professeur de psychologie à l'université. Vous imaginez un peu ce qu'il faut pour un professeur de psychologie d'accepter ce genre de paroles. Je savais qu'il y avait des gens qui entendaient des voix, et donc ils n'étaient pas tout à fait normaux, mais je voyais dans la Bible des gens qui entendaient des voix et qui étaient normaux. Parce que c'est Dieu qui leur parlait. Ils m'ont dit, bon, demande, je demande. Et puis pendant une demi-heure, il ne s'est rien passé parce que j'étais passif et j'attendais qu'il me fasse parler en langue de lui-même. Hein, comme un médium est pris par un esprit sans qu'il s'en rende compte. Ce n'est pas comme ça que l'Esprit de Dieu travaille. Au bout d'une demi-heure, j'ai arrêté, j'ai dit « ça ne marche pas, je ne vois rien se passer ». Et j'ai dit aux frères chez qui on était, puisqu'on n'était même pas chez moi, j'ai dit « frère, moi je ne sortirai pas de ton appartement tant que je ne serai pas baptisé de l'Esprit ». Donc j'aurais pu y rester une semaine, je serais resté incrusté là, je ne serais pas parti. Alors on a repris, m'ont relu les passages, et à un moment donné, Jésus a eu pitié de mon incrédulité. Parce que j'aurais dû croire que tout de suite, ayant demandé l'Esprit, il me l'avait donné immédiatement. Mais j'attendais de sentir quelque chose. Donc il a eu pitié de moi, il m'a fait sentir de l'huile qui descendait en moi, et là j'ai dit, ça y est, je suis rempli. Non pas parce que c'est écrit, mais parce que je l'ai senti. Et ce n'est pas comme ça, mais enfin, Dieu a pitié des incrédules. Hein. Heureusement, Seigneur, que tu as pitié des incrédules. Et alors, du coup, j'attendais qu'il me fasse parler. Et ça ne venait pas. Et c'est Dieu qui attendait que je mette ma foi en action pour ouvrir ma bouche et laisser sortir tout ce que le Saint-Esprit m'inspirerait. Et j'ai eu envie, à un moment donné, de dire un mot. Je l'ai dit, un mot complètement ridicule. Du coup, je me suis arrêté, mon intelligence a commencé à réfléchir. Pourquoi ce mot? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi pas un autre? Et pourquoi ce mot-là? Et du coup, l'inspiration s'est arrêtée parce que je commençais à utiliser mon intelligence pour essayer de comprendre. J'ai laissé sortir un deuxième mot que j'ai eu envie de dire. Et puis, c'est devenu une rivière. Et au bout d'une demi-heure, je parlais couramment une langue étrangère que je n'avais jamais apprise. Mais j'ai su ce que c'était qu'être rempli de la puissance de l'Esprit. Parce que pendant un an, J'étais né de nouveau, mais je n'avais rien fait pour Jésus, sinon étudier ma Bible chez moi tout seul. Et là, le lundi qui a suivi, je suis allé trouver mon grand directeur à l'université et je lui ai dit, ce qu'il n'est pas permis de dire à l'université, je lui ai dit, est-ce que je peux utiliser ma salle de psycho pour annoncer l'évangile ? Il m'a regardé stupéfait et il m'a dit oui. Et ça, c'est un miracle. Parce que la puissance de l'Esprit de Dieu qui parlait par ma bouche l'a convaincu. Il lui a dit, il faut que tu dises oui. Il m'a dit simplement, mais il ne faut pas que tu troubles l'ordre public. Et je ne pouvais pas manquer de le troubler, imaginez. Un professeur de psycho qui utilise sa salle de psycho, qui invite les élèves, les profs, le personnel. J'avais un an de conversion, j'avais un jour de baptême de l'Esprit, j'annonçais l'Évangile, je priais pour les malades, et je m'étais joint à l'église de Truchel, mais évidemment, on ne m'a pas fait prêcher ni prier pour les malades, et ils ont bien fait dans l'église. Mais à l'université, je pouvais faire ce que je voulais. Et gloire à Dieu, je me suis entraîné comme ça à prêcher l'Évangile. Tout ceci pour dire que, quand nous allons prier tout à l'heure pour ceux qui ont besoin d'être baptisés de l'Esprit, sachez une chose, que Dieu répond immédiatement à la demande que vous allez lui faire de vous remplir de son Esprit. Immédiatement, que vous le sentiez ou pas, n'attendez pas de sentir des frissons dans votre dos pour le croire, ou de sentir quelque chose. Dieu répond toujours immédiatement aux prières qui lui sont faites selon sa volonté, quelle qu'elle soit. Donc nous allons prier, vous allez croire que vous l'avez reçu, que vous êtes rempli maintenant, et vous allez prouver à Dieu immédiatement que vous croyez. Vous allez ouvrir votre bouche et vous allez parler en langue par la foi. Vous allez exprimer tout ce que l'Esprit de Dieu va vous inspirer en croyant que ce que vous allez dire est inspiré par le Saint-Esprit et que ce n'est pas vous qui le fabriquez. Amen. Alors mettons ça en pratique tout de suite. Est-ce qu'il y en a ici qui ont besoin d'être baptisés de l'Esprit ? Je ne vous demande pas de lever votre main, vous savez qui, mais je sais qu'il y en a. Donc ce que nous allons faire, je vous propose de le faire maintenant, en silence ou à voix basse, comme vous voulez. Demandez à Dieu maintenant d'être rempli de son Esprit. Faites-le maintenant. Dites-lui simplement avec vos mots, « Seigneur, je te demande de me remplir maintenant de ton Saint-Esprit. » Parce que c'est l'ordre de Jésus. Ne faites rien sans être rempli de l'Esprit. N'allez nulle part sans être rempli de l'Esprit. Et Dieu qui est bon vous remplira dès que vous l'avez demandé. Voilà. Pas la peine d'être trop long, c'est fait. Vous avez demandé à Dieu. Il vous a rempli. Vous le croyez ? Amen. Donc, je vais vous demander de mettre votre foi en action, si vous croyez, puisque la foi sans les œuvres, elle est morte. Dans les livres des Actes, nous voyons que tous ceux qui ont été remplis, acte 2, acte 10, acte 19, que Paul lui-même, quand il a été visité par Ananias, qui lui a imposé les mains, a été rempli de l'Esprit, eh bien, ils ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, je vous encourage maintenant, nous allons tous passer un moment à prier en silence, doucement, en langue. Ceux qui savent prier en langue, passez un moment à prier en langue avec moi. Et je prie en langue pour que Dieu donne à tous ceux qui n'ont pas encore reçu cette liberté, la liberté d'ouvrir leur bouche et de laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer par leur bouche. Alors passons un court moment à prier ensemble en langue. Et vous qui n'avez jamais prié en langue, ouvrez la bouche et laissez l'Esprit de Dieu vous inspirez et parlez en langue maintenant au nom de Jésus. Koria bara kayana kaya tekashikotoro borokoti kaya shingapaya takashikotiro borokora kira bara kaya tindaro kubaya takashikotoro barakanda kaya tekashikotoro ondoro borokondia ambaya takashikotoro borokoya takai Voilà, je n'insiste pas, si vous n'avez pas parlé maintenant en langue, ne vous découragez pas, quand vous serez tranquillement chez vous, que vous serez seul devant Dieu, ouvrez la bouche et laissez sortir les sons que vous aurez envie par la foi de prononcer en croyant que c'est le Saint-Esprit qui vous les inspire, et vous verrez le fleuve d'eau vive sortir de vous. Pourquoi Jésus veut que nous parlions tous en langue ? Parce que c'est un moyen de communication idéal entre Dieu et vous. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14, il dit ceci. Recherchez l'amour, recherchez la charité. Oui, parce qu'il ne marche pas bien. J'espère que vous avez quand même tous entendu ce que j'ai dit. Ok, bon. Alors, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, dit ceci. Recherchez l'amour. La charité, c'est l'amour de Dieu. Alors, comment rechercher la charité ? Ben, en m'approchant de Jésus, qui est amour, et en réalisant qu'il a déjà déversé dans nos cœurs son amour, dans nos esprits, et qu'il veut nous en remplir. Quand nous avons Jésus en nous, nous avons l'amour en nous. Donc rechercher l'amour, c'est nous approcher de Jésus en disant « Seigneur, remplis-moi de ton amour et qu'il n'y ait rien dans ma vie qui soit inspiré par autre chose que ton amour à toi. » Ça s'appelle marcher par l'esprit et plus par la chair. Aspirer aussi aux dons spirituels. Les dons spirituels nous sont donnés souverainement par Dieu selon l'inspiration de l'esprit. On ne peut pas les fabriquer comme ça de nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui nous utilise pour les dons, les 9 dons de 1 Corinthiens 12, là. Mais il dit, mais surtout à celui de prophétie. Aspirer aux dons, ça veut dire quoi ? Nous approcher de Dieu en disant, Seigneur, je désire ardemment être utilisé par toi pour manifester les dons de ton esprit. Dons de paroles de sagesse, de paroles de connaissance, les dons des guérisons, qui ne sont pas la même chose qu'imposer les mains aux malades en mon nom. Ce sont des dons surnaturels que Dieu donne comme il le veut, où il le veut, quand il veut. Mais pour pouvoir les donner, il a besoin d'hommes et de femmes, de ses enfants qui aspirent à être utilisés. Si vous n'aspirez que aux dons de prophétie, il dit surtout celui-là, un don qui consiste à être utilisé par Dieu pour exhorter, édifier, consoler, par un don surnaturel. Si vous n'aspirez qu'à celui-là, Jésus respecte votre décision et il vous utilisera seulement pour celui-là. Si vous aspirez à un autre don, Dieu vous utilisera pour celui-là. C'est un Dieu bon. Du coup, je lui ai dit, Seigneur, j'aspire à tous les dons. Ça veut dire que si tu veux m'utiliser pour tel don à tel moment, je suis disponible, Seigneur. Là, il fera comme il veut. S'il veut en utiliser un autre que moi, il l'utilisera. Mais il sait que je suis disponible. Et donc, j'ai été utilisé au moins une fois pour tous les dons, parce que j'aspire à tous les dons. Donc, faites pareil. Dieu n'est pas limité dans sa puissance. Mais il a besoin que ses enfants aspirent à le voir se manifester au milieu de nous. Évidemment, les dons de l'Esprit sont donnés pour l'édification de l'Église. Et pour Dieu, ce qui est le plus important, ce n'est pas les dons, c'est le fruit de son esprit dans nos vies. Parce que vous savez très bien que des chrétiens qui ne produisent pas le fruit de l'esprit, c'est-à-dire qui sont charnels, peuvent être utilisés par le Seigneur pour manifester des dons spirituels. Vous le croyez ? Oui. Dieu ne va pas utiliser que ceux qui sont parfaitement sanctifiés pour exercer les dons. Il peut utiliser un chrétien qui vient d'avoir un jour de conversion pour une parole de connaissance ou une parole de foi. Mais ce qu'il va nous demander, c'est de nous sanctifier, de nous perfectionner, de produire le bon fruit de l'Esprit qui est la manifestation du caractère de Jésus. Et quand vous êtes, c'est pour ça qu'il dit d'abord, recherchez d'abord l'amour et après les dons. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'amour et qui exerce les dons de puissance, il est en danger pour les autres et en danger pour lui-même. Alors que si on a d'abord le désir de manifester l'amour, à ce moment-là, Dieu va m'utiliser pour les dons de l'esprit et je ne serai pas un danger par les autres parce que je vais être inspiré par l'amour de Dieu. Et il ajoute, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, sauf s'il y a quelqu'un qui a le don d'interprétation, bien sûr. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Une fois que tu es né de nouveau et converti, Dieu t'appelle à t'édifier en lui, à te perfectionner en lui. C'est pourquoi il est dit dans Actes 2, 42, à tous ceux qui avaient reçu le baptême d'eau, qui s'étaient convertis à Jésus, qui avaient reçu le baptême d'eau, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans le partage du pain, la scène, et dans les prières. Ce sont les quatre pieds de l'Église. L'étude de la parole, la communion fraternelle entre nous pour partager nos joies et nos peines, la scène et les prières. Voilà la vie de l'Église. Et en pratiquant ces choses, nous allons nous édifier. Mais la prière la plus puissante pour nous édifier, c'est la prière en langue. Parce que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même en esprit, sans même savoir ce qu'il dit. Le simple fait de parler en langue l'édifie. Pourquoi ? Parce que le fait de parler en langue ouvre un canal direct de communication entre Dieu et nous, puisque c'est notre esprit qui prie quand on parle en langue. Notre intelligence est déconnectée, elle ne prie pas. C'est notre esprit qui prie. Donc, nous conversons avec Dieu et nous disons des mystères pour notre intelligence, mais pas pour notre esprit. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On ouvre un canal de communication qui fait descendre dans notre intelligence des mystères qu'on n'a pas encore compris. C'est comme ça qu'on est édifié. Parce que c'est notre intelligence qui a besoin de comprendre. Mon esprit qui est régénéré n'a pas besoin d'être édifié, il est déjà parfait et saint en Jésus-Christ. Vous le croyez ça ? Au cas où quelqu'un se demanderait comment c'est possible, je veux dire en quelques mots que la nouvelle naissance de notre esprit, c'est un acte souverain de Dieu qu'il fait dans l'esprit de ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur après s'être repentis. Il prend leur esprit, et leur esprit, c'est leur homme intérieur le plus profond, qui est dans la mort spirituelle, qui est coupé de Dieu. Il prend cet esprit-là, il le fait mourir, et il le ressuscite immédiatement en esprit recréé à neuf, à son image. C'est puissant comme révélation que Paul a reçue. Notre esprit, au plus profond de nous, il le dit dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 24, quand Paul exhorte les chrétiens à se revêtir de l'homme nouveau ou de la femme nouvelle. L'homme nouveau, c'est mon esprit qui a été recréé en Jésus. Le vieil homme, Romains 6, a été crucifié avec Christ. Le vieil homme, c'était mon esprit avant qu'il passe par une nouvelle naissance. Il a été crucifié avec Jésus. Quand Jésus est mort, je suis mort avec lui. Et quand il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Mais ce « je » qui est mort et qui est ressuscité, c'est mon homme intérieur, mon esprit. Mon esprit ancien est mort en Christ et mon esprit nouveau est recréé en Christ à sa résurrection. Et il m'en fait profiter quand je me convertis aujourd'hui à lui. Et il définit cet homme nouveau créé selon Dieu, à l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà ton homme nouveau à l'intérieur. Il est recréé à ta nouvelle naissance dans la justice et la sainteté même de Dieu. C'est celui-là qui a une nouvelle création. C'est celui-là qui est justice de Dieu en Christ. Maintenant, le travail de sanctification dont je viens de vous parler, ce n'est pas mon esprit qui est appelé à être sanctifié, c'est mon âme, c'est mon être intérieur conscient. Mon âme, dit Pierre dans la première épître de Pierre, il dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, mon âme a besoin d'être purifiée. Mon âme, ce sont mes pensées. Mon âme, ce sont mes sentiments. Mon âme, c'est ma volonté. Quand je viens à Christ et que je reçois son pardon, est-ce que vous avez réalisé que votre âme n'était pas changée complètement ? Que vous aviez toujours les mêmes défauts qu'avant, après votre conversion ? Que, en tout cas, moi, je le savais pour ma part, je savais que mes péchés étaient pardonnés, mais j'ai bien vu que le lendemain, les mêmes défauts que j'avais avant, je les reproduisais dans ma vie pareil. Que ce que j'avais comme problème dans ma vie pratique n'était pas réglé. Au contraire, ils ont augmenté après ma conversion. J'avais des problèmes avec l'impureté, j'avais des problèmes avec la crainte, j'avais des tentations que je n'avais pas avant. Et je voyais bien que mon être intérieur conscient, mes pensées, elles n'étaient pas entièrement transformées par ma conversion. J'avais besoin d'être sanctifié, d'être perfectionné, d'être édifié. Et il a fallu que je comprenne pourquoi. Si on m'avait dit le jour de ma conversion, « Tu es une nouvelle créature, Henri, comme Dieu le dit dans sa parole », j'aurais dit, moi, je ne vois pas où elle est, cette nouvelle créature. Je me sens comme avant. J'ai toujours les mêmes qualités, les mêmes défauts qu'avant. Je sais que je suis appelé à être perfectionné, mais je ne me vois pas changer du jour au lendemain après ma conversion. Et vous ? Pareil, je suppose. Je suis sûr qu'il n'y a pas un seul aujourd'hui dans cette salle qui, le lendemain de sa conversion, est devenu un saint parfait dans toute sa vie, entièrement saint, entièrement purifié. Non, c'est un début, c'est une marche. Mais quand j'ai compris que mon esprit, lui, comme c'est Dieu qui l'a recréé, ce que Dieu crée, c'est parfait. Il a recréé mon esprit qui est ma vraie nature et il a donné à mon esprit sa nature, participant de la nature divine, et il a donné à mon esprit sa justice et sa sainteté. Je ne le sentais pas dans mon âme, mais je l'ai appris par la parole de Dieu. Et ça a bouleversé ma vie quand j'ai lu ce passage-là que je viens de vous lire. « Ton homme nouveau, toi dans ta nouvelle nature, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Le Saint-Esprit m'a dit « Cet homme nouveau, c'est toi, Henri, dans ton esprit. Ton âme, elle a besoin d'être purifiée. Mais je te demande déjà de croire que ta vraie nature, ce n'est pas ton âme, ta vraie nature, c'est ton esprit. » Vous vous rappelez quand l'apôtre Jean, dans Apocalypse 4, a été amené en esprit dans le royaume de Dieu. Son corps est resté sur l'île de Patmos et son esprit est sorti de son corps par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et il est allé devant le trône de Dieu. Et là, on voit bien que Jean, il voit ce qui se passe, il entend ce qui se passe. Il voit les esprits des sauvés autour du trône de Dieu qui sont en train de louer Dieu avec des robes blanches sur leur corps spirituel, avec des harpes d'or dans leurs mains. Donc, ton esprit dedans, que tu ne vois pas, il a une tête, il a des yeux, il a des oreilles, il a un nez, il a des bras, il a des jambes. Et ton corps là n'est que l'enveloppe extérieure de ton esprit à l'intérieur. Mais ton esprit est déjà pur comme Jésus et saint comme Jésus. Alors, le travail de sanctification qui nous appelle à faire dans nos vies, depuis le premier jour de notre conversion jusqu'au retour de Jésus ou notre mort physique, on est engagé dans un travail de perfectionnement de notre être intérieur conscient, pas de notre esprit, de notre âme. Nos pensées ont besoin d'être renouvelées. Notre intelligence a besoin d'être transformée. Notre volonté a besoin d'être entièrement au service de Dieu. Nos sentiments ont besoin d'être transformés. J'ai besoin de comprendre qu'après ma conversion, il y a dans mon corps physique, là, une puissance de péché et de mort qui s'appelle la chair. Paul en parle de la chair. Ne croyez pas que la chair, c'est votre vieil homme. Ne croyez pas que la chair, c'est votre nature humaine. La chair, c'est une puissance ou une loi de péché et de mort, Romains 8, qui habite dans vos membres. Et cette chair-là, elle a des pensées, elle a des désirs, elle a des sentiments, elle a des émotions qui sont ceux de Satan. La chair a la nature de Satan. Et elle habite dans nos membres. Et elle nous contrôlait entièrement avant. Elle contrôlait nos pensées. Elle contrôlait nos sentiments, nos émotions. Et elle veut continuer à exercer son contrôle. Et comment elle arrive à exercer son contrôle? En nous faisant croire que tout ce qui vient d'elle, ça vient de nous. Vous voyez la ruse du diable? La chair qui habite dans nos membres. Par exemple, je priais il n'y a pas longtemps avec un frère né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, qui a toujours un problème avec la cigarette. Il fume, il n'arrive pas, il a essayé de s'arrêter, il n'y arrive pas. Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit, mon frère, il faut que tu comprennes que le besoin de fumer que tu ressens vient d'une puissance de péché qui habite dans ton corps, qui s'appelle la chair. C'est elle qui a besoin de fumer. Mais toi, dans ta vraie nature, et tu dois comprendre que ta vraie nature, c'est ton esprit régénéré. C'est ça ta vraie nature. Ta vraie nature n'a pas besoin de fumer parce qu'elle est créée à l'image de Jésus et Jésus n'est pas un fumeur invétéré. Et il a réfléchi, il a dit, j'ai compris. Pour que ça puisse être efficace dans ta libération de ce lien-là, ça peut être un lien de tabac, ça peut être un lien d'alcool, un lien d'impureté sexuelle, etc. Tout ça vient de la chair. Quand tu peux t'identifier à ta vraie nature, à ta véritable identité en Christ, ta véritable identité, c'est que tu es une nouvelle créature en Christ, que dans ton esprit, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles, que dans ton esprit, tu es une créature faite à l'image de Dieu, et que dans ton esprit, il y a la nature même de Jésus. Et si tu arrives à t'identifier par la foi, c'est-à-dire à croire que ta vraie nature, c'est l'esprit que Dieu a recréé en toi, ton esprit, et c'est ça que Jésus t'a donné comme cadeau, et que cet esprit-là, il a les mêmes sentiments, les mêmes pensées, les mêmes désirs que Jésus. Tu ne le ressens pas, mais il te demande, Jésus, de le croire. Et j'ai vu comme ça des enfants de Dieu délivrés instantanément de l'alcool, du tabac, de la drogue, parce qu'ils se sont, ils ont déménagé par la foi dans leur esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils se sont installés par la foi de l'autre côté de la croix, puisque Jésus nous a pris du mauvais côté de la croix, le royaume de Satan, il nous a fait passer par la croix avec lui. Là, nous sommes morts au royaume de Satan, nous sommes morts à la chair, morts au péché, et il nous a fait passer en tant que nouvelle créature dans son royaume à lui, dans laquelle la chair ne peut pas rentrer. Donc moi, vous me voyez là maintenant, si je suis parvenu, ou vous, à m'identifier par la foi à la nouvelle personne que je suis dans mon esprit c'est moi maintenant, mon esprit c'est ma vraie nature, c'est le don de Dieu pour moi. Entre mon esprit et la puissance de péché qui habite dans mon corps toujours là maintenant, il y a un obstacle infranchissable, c'est la croix de Jésus. Mais si ma conscience dans mon âme n'est pas encore renouvelée, et si mon âme est encore du mauvais côté de la croix, si elle est encore contrôlée par la chair, si mon âme, mes pensées dans mon âme ne sont pas renouvelées, et que la chair a réussi à me faire croire que ce besoin de fumer, c'est le mien dans mon âme, je ne vais pas pouvoir être délivré. Il faut que je me dissocie de mon ancienne nature qui peut subsister au niveau de mon âme, pour m'identifier à la nouvelle que Dieu m'a donnée. Est-ce que vous vous rappelez que Jésus avait dit à ses disciples dans l'Évangile, « Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. » De quel lui-même il parle? De son ancienne nature, pas de la nouvelle qu'il a donnée après. Hein. « Qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix, et qui me suivent. » Et ils n'ont rien compris. Mettez-vous à leur place. Jésus te dit, il faut que tu renonces à toi-même. Alors moi, si j'entends ça, je vais réfléchir et je vais dire, renoncer à moi. Bon, il m'aurait demandé de renoncer à ma fortune, renoncer à mon travail, renoncer à tout. J'aurais compris. Mais renoncer à moi. Comment renoncer à moi complètement? Il faut que je meure. La phrase de Jean-Baptiste, il faut que je diminue et que lui grandisse. Ça, c'est une phrase de l'ancienne alliance. Il faut que je diminue, il faut que mon ancienne nature diminue. Mais diminue jusqu'où? Il faut qu'elle disparaisse complètement. Et où est-ce qu'elle a disparu complètement? Sur la croix. Parce que Jésus m'a fait mourir à ce que j'étais avant. Donc maintenant, je peux comprendre. Pour renoncer à la vieille personne que j'étais avant, vieille au sens spirituel, pour renoncer à l'homme ou la femme que j'étais avant, il faut que je puisse comprendre que Dieu a fait de moi une nouvelle créature. Sinon, je ne pourrais jamais renoncer à ce que j'étais avant parce que je ne sais pas vers quoi me tourner comme personne nouvelle. Si Jésus te dit, il faut que tu meures complètement, je dis d'accord, je veux bien mourir, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir après? Je vais me poser cette question. Il faut que tu meures, je veux mourir, mais moi, et après, qu'est-ce que je deviens? Tu peux mourir à ce que tu étais avant, parce que c'est Jésus qui t'a fait mourir à la croix. Regardez, je vais peut-être terminer par là, regardez dans Éphésiens 4, hein, au verset 17, Éphésiens 4, 17, « Voici donc ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens. » Il parle à des chrétiens. Donc un chrétien peut marcher comme un païen, si son intelligence n'a pas été renouvelée. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Un chrétien dont les pensées ne sont pas renouvelées par les pensées de Dieu va marcher comme un païen. Ils ont l'intelligence obscurcie. Un chrétien peut avoir l'intelligence obscurcie parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. On peut être en partie étranger à la vie de Dieu qui est dans notre esprit, mais qui n'est pas forcément manifestée dans notre vie pratique si nous sommes contrôlés par la chair. À cause de l'endurcissement de leur cœur, parce que leur cœur est rempli des convoitises de la chair. Est-ce que le cœur d'un chrétien peut être rempli des convoitises de la chair aussi? Pas complètement, sinon il ne serait pas, mais il peut y en avoir, des convoitises de la chair. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, etc. Au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. » Il y a une instruction à recevoir du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Instruits à quoi? Eu égard à votre vie passée, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Or, le vieil homme, je vous l'ai dit, c'est mon esprit qui a été crucifié avec Jésus. Mais avant d'être crucifié, il a eu le temps de s'installer dans ma vie pratique, dans mon âme, dans mes pensées, de les contrôler, de les contrôler à son image. Et même si mon esprit, lui, est passé par une mort et une résurrection, au niveau de mon âme, tout ce que le vieil homme avait fait là, c'est encore là. Et il faut que ce soit dégagé, nettoyé. C'est ça, se dépouiller du vieil homme. Donc, pour me dépouiller du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, il me demande d'être renouvelé dans l'esprit de mon intelligence. Romains 12 dit que vous devez être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Et là, il parle du renouvellement de l'esprit de mon intelligence. Ça veut dire que l'esprit qui contrôlait mes pensées, mes raisonnements, mon intelligence, a besoin d'être changé et d'être remplacé par un autre esprit qui va maintenant contrôler mes pensées, mon intelligence. L'esprit qui contrôlait mon intelligence avant, c'est la chair qui agit dans les fils de rébellion. Et maintenant, je dois déconnecter cette puissance-là et connecter la puissance de l'Esprit de Dieu à mon intelligence et la parole de Dieu pour qu'elle soit transformée. Et ensuite, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Donc, si on comprend le principe, c'est très simple. Imaginez un jour que vous, mari, avec votre femme, vous vous promenez dans la zone commerciale, Vous passez devant un magasin de femmes et votre femme vous dit « Regarde ce vêtement-là ou cette robe. J'aimerais tellement la voir, mais on n'a pas les moyens. » Bon. Alors, tu as entendu ça, et comme tu es un mari aimant, tu réunis quelques fonds qui te restent, et sans le dire à ta femme, tu vas le lendemain dans ce magasin pour habits féminins, il faut déjà le faire, et tu vas lui acheter la belle robe qu'elle voulait avoir. Tu lui fais une surprise, tu la caches dans l'armoire, tu appelles ta femme dans la chambre et tu lui dis « Chérie, maintenant il faut que tu te débarrasses de ce vieux vêtement que tu portes tout le temps. Il faut que tu t'en débarrasses, ça suffit comme ça. Il est moche, il est vieux, il n'est plus à la mode, ça ne va plus. Il faut que tu changes. » Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va dire « Oui, mais j'aimerais bien, mais j'ai rien d'autre à me mettre dessus. » Et à ce moment-là, d'un geste généreux, il ouvre l'armoire et il dit « Voilà. » À ce moment-là, elle voit ça, elle prend la nouvelle robe et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dépouiller du vieux vêtement et elle va mettre le nouveau. Mais vous voyez que vous ne pouvez pas, dans votre vie pratique, vous dépouiller des vieux vêtements de la chair tant que vous n'avez pas compris que Dieu a prévu pour vous un nouveau vêtement. Donc il faut l'avoir compris d'abord, ça. Et pour moi, ça a augmenté puissance 10 la vitesse de sanctification. Parce que maintenant, pour me sanctifier, je ne pars plus du bas vers le haut, je pars du haut vers le bas. C'est-à-dire, je m'identifie à la nouvelle personne que je suis dans l'esprit. Je dis, Jésus, j'ai bien compris que tu as fait de moi, dans l'esprit, un homme parfait et saint. Je ne le vois pas encore manifester pleinement dans ma vie pratique, mais je sais que déjà dans l'esprit, c'est acquis. Je le crois. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que Dieu a fait de toi, dans ta vraie nature, un saint, une sainte, parfaite, juste en Christ, en le croyant, tu vas voir cette personne-là commencer à sortir. Tandis que si tu continues à croire dans ton cœur que tu es toujours un pauvre pécheur pourri, sauvé par grâce, merci Seigneur, mais je suis toujours un pécheur pourri, tu vas entretenir une conscience de péché en toi qui va te pousser à pécher et qui va retarder ta sanctification. Tandis que si tu crois que Dieu a fait de toi un saint par sa grâce, dans ton esprit, dans ta vraie nature, et que tu t'installes dans cette position en croyant que c'est ça ta vraie nature, tu vas voir à quel point cette nature-là va se manifester rapidement dans ta vie. Et tout ce que tu peux avoir comme lien dans ta vie pratique, tu sais qu'ils ne sont plus dans l'esprit. Et quand tu le crois, tu en es libéré instantanément. Bon, j'arrête là, parce que d'habitude, c'est une semaine de séminaire que je fais là-dessus. Mais j'ai essayé de condenser ça au maximum. Maintenant, je vous avais dit que je prierai avant de partir, avant de quitter cette estrade pour les malades. Alors c'est très simple, je ne prie pas Dieu de guérir les gens parce que c'est une offense à Dieu de prier Dieu de les guérir. Pourquoi? Parce que sa parole nous dit qu'ils sont déjà guéris. Donc je ne vais pas lui demander de guérir les malades, je vais lui demander d'ouvrir les yeux des malades pour réaliser qu'en Christ, ils sont déjà guéris. En Christ, il a porté toutes nos maladies, toutes nos infirmités, toutes nos douleurs, il les a portées. Et nous avons été guéris par ces meurtrissures il y a 2000 ans. Je vous garantis que Satan n'aime pas entendre ça. Il veut s'accrocher à vous par une maladie ou une infirmité quelconque. Que ce soit la myopie, que ce soit n'importe quelle maladie, un cancer au quatrième degré, peu importe. Pour Dieu, c'est pareil. Il a pris tout ça, il l'a donné à supporter à Jésus. Il a porté nos maladies. Je pourrais vous citer juste un témoignage qui me revient à l'esprit maintenant. C'est une jeune femme, ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont quand même une culture biblique et un respect de la parole de Dieu. Une jeune femme dans une église qui n'enseignait pas la guérison par la foi, une église genre par exemple baptiste, j'ai rien contre mes frères baptistes, mais parce qu'on n'enseigne pas dans certaines églises que Christ a pris nos maladies. Donc elle ne le savait pas, Elle savait juste qu'il avait pris ses péchés. Elle était en train de mourir d'une maladie incurable au dernier degré. Et là, elle prend sa Bible et elle lit 1 Pierre 2, 24. Elle commence à lire le début du verset. « Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois de la croix, afin que, étant mort au péché, nous vivions pour la justice. » Elle s'arrête là. Et puis, dans son cœur, elle bénit Dieu en disant « Merci Seigneur, oh, je l'ai compris, merci de m'avoir révélé cette vérité. Je sais que quand la maladie aura achevé son œuvre, je vais aller vers toi et je m'en réjouis. » Et puis, elle continue à lire « Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. » Elle le relit une deuxième fois, une troisième. Elle dit « Mais à qui parle là le « vous » ?»« Vous ?» Pierre, il s'adresse à tous les chrétiens. Donc il est en train de dire « Vous, chrétiens, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. » Elle dit « Mais est-ce que ça ne serait pas pour moi aussi ? Dans le « vous », il y a moi. » Elle dit à sa mère qui l'a veillée « Maman, est-ce que tu savais que Dieu a dit dans sa parole que j'étais guérie ?» Sa mère a dit « Ma fille, calme-toi, calme-toi. » Reste tranquille. Maman, va me chercher mes vêtements, je vais me lever. Parce que Dieu a dit dans sa parole que j'étais guéri. Sa mère affolée lui dit, ma fille, calme-toi. Elle n'est pas allée chercher les vêtements, elle a essayé de la calmer. Parce qu'elle savait qu'elle était en train de mourir, elle pensait que c'était la dernière heure. Et elle a dit, maman, est-ce que tu ne nous as pas appris dès notre enfance à considérer ce livre comme la parole de Dieu et à croire tout ce qui est écrit ? Eh bien, je le crois. Et par la foi, elle s'est levée en criant dans toute la maison, « Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri !» Et quelques jours après, tous les symptômes étaient partis et elle était entièrement guérie. Si elle avait attendu que les symptômes partent pour croire qu'elle était guérie, elle n'aurait peut-être pas eu sa guérison. Elle serait morte avant, sûrement. Donc Dieu vous demande de croire. Maintenant, ce que nous allons faire ensemble, nous allons remercier Dieu qu'en Jésus-Christ, il nous ait non seulement pardonné tous nos péchés, mais guéri toutes nos maladies. Et que la maladie est la conséquence du péché, de nos péchés et des péchés de nos ancêtres. Mais quand nous nous sommes repentis, évidemment un chrétien qui vivrait ouvertement dans le péché en le sachant, sans vouloir se repentir, il pourrait attirer des maladies sur lui et il devrait se repentir. Mais quand vous avez compris que Jésus a pris la cause de nos maladies sur lui et les conséquences de nos péchés aussi sur lui, c'est parce qu'il veut nous guérir comme il veut nous pardonner. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc nous allons lui résister, je vais résister au diable. Je sais que dès que je vais commencer à prier, le Saint-Esprit va être à l'œuvre. Donc accompagnez ma prière avec vous dans vos cœurs, accompagnez mes paroles, puisque ce n'est pas une prière, c'est une action d'autorité. Au nom de Jésus, mon Père, nous te remercions que non seulement tu as mis sur Jésus notre Sauveur nos péchés, nos iniquités, mais toute la malédiction de la loi qui consistait aux maladies, aux infirmités, aux malédictions diverses qui résultent du péché. En prenant la cause de nos maladies, Seigneur, tu as pris aussi les conséquences. Et tu nous as pardonnés et guéris. Et maintenant, je m'adresse au nom de Jésus à toute maladie, toute infirmité quelconque dans les corps ou même dans les cœurs qui ont besoin d'une guérison du cœur. Au nom de Jésus, je parle à ces maladies et ces infirmités. Je leur ordonne et nous leur ordonnons ensemble de quitter nos corps, de quitter nos âmes, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Restons un peu devant le Seigneur, une minute, simplement, en laissant le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire. Et remerciez-le dans votre cœur, remerciez-le dans votre cœur qui vous a guéri. Vous occupez plus des symptômes, n'abandonnez vos traitements que si vous en avez la conviction du Saint-Esprit. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Mais gardez simplement dans vos cœurs la conviction que Jésus a porté cette maladie-là sur la croix et que par ses meurtrissures, vous êtes maintenant guéri. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.